Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi à 17h30 sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Épisode 10, pourquoi le mal ? Nous avons donc vu dans l'épisode précédent que Dieu a créé l'univers librement, par pur amour et sans aucune nécessité, parce qu'il voulait transmettre son amour, sa puissance, ses perfections à d'autres créatures. Alors, évidemment, on pourrait la première objection ou la première idée qui vient à l'esprit pour nous pauvres êtres humains plongés dans les souffrances et dans cette vallée de larmes, comme dit cette belle prière du Salve Regina, la question que nous pouvons nous poser légitimement et poser à Dieu, c'est pourquoi le mal ? Alors, avant de rentrer en détail dans cette question du mal, j'en reviens à une question précédente, donc c'est le numéro 55 de cet abrégé du catéchisme de l'Église catholique du pape Benoît XVI, qui pose la question « En quoi consiste la providence divine ?» La divine providence, répond le catéchisme, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit ses créatures vers l'ultime perfection à laquelle il les a appelées. Dieu est l'auteur souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il utilise aussi la coopération de ses créatures. En même temps, il leur donne la dignité d'agir par elles-mêmes et d'être causes les unes des autres. Alors, nous avons ici quelques éléments très intéressants sur cette notion de la providence divine. Dieu, en effet, a créé une myriade de créatures qui vont des créatures les plus simples, on peut dire par exemple les pierres, les montagnes, les océans, etc., toutes les choses matérielles, jusqu'aux êtres les plus évolués, qui sont les êtres intelligents et libres, les hommes bien sûr, mais aussi les anges, nous en parlerons dans la leçon suivante. Chaque être qui a été créé par Dieu est créé selon une certaine nature, avec sa dignité propre, et Dieu respecte cette dignité propre. Cette dignité, d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle en philosophie la nature de la chose. La nature d'une pierre, c'est d'être lourde, de tomber vers le bas et de reposer sur le sol. La nature d'une vache, c'est de grandir jusqu'à devenir à remplir la perfection de la nature de la vache, d'être féconde dans le sens de se reproduire, d'être capable de se reproduire, de donner sans doute du lait et d'accomplir sa nature de vache de la façon la plus parfaite possible. C'est une notion très importante puisque cela signifie que il est inscrit dans la nature de chaque chose ce qu'est son destin, ce qu'est sa finalité. Et la perfection pour chacune de ces choses consiste à réaliser cette finalité. Alors vous comprenez que dans le cas des hommes, ce qui est évidemment ce qui nous intéresse, la nature humaine, qui est composée à la fois d'un corps, comme tous les autres animaux, d'un corps animal, mais aussi d'un esprit, et on verra que c'est très important, nous en parlerons après avoir parlé des anges, nous avons une âme spirituelle. Et donc, le bonheur, la perfection de l'humanité, de chaque être humain, consiste dans l'accomplissement de cette nature que Dieu nous a donnée. C'est la notion de loi naturelle. C'est ce qu'on appellera plus tard, quand on parlera de morale, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui nous permettent de vivre de façon cohérente avec notre propre nature. Dieu ne nous a pas donné une loi morale arbitraire en disant ceci est mal, ceci est bien, mais il nous a donné en quelque sorte le mode d'emploi pour accomplir notre propre nature. Alors, cette nature humaine, puisque nous sommes des créatures intelligentes et libres, eh bien Dieu la respecte. Et dans sa providence, évidemment tout est sous son contrôle, mais de façon très parfaite et très divine, eh bien Dieu peut utiliser parmi les instruments et parmi les éléments de sa providence des êtres libres, tout en respectant leur liberté. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nous échappe un peu, puisque nous, si nous fabriquons une machine, eh bien, nous ne pouvons pas lui donner un esprit et donc une liberté. Et donc, la machine ne va agir que selon les règles qu'on lui a fixées, y compris d'ailleurs l'intelligence artificielle, par exemple, qui ne fait qu'accomplir les calculs qu'on lui a demandé de faire ou qu'on l'a programmé pour accomplir. Il ne peut pas y avoir d'action libre de la part d'une machine. Il ne peut pas y avoir d'acte volontaire. Il peut y avoir un choix entre plusieurs possibilités, mais ce choix nécessairement va être le fruit d'un calcul. Nous avons la possibilité d'agir librement, et cette liberté, c'est l'un des biens les plus précieux que les hommes possèdent, évidemment. Et Dieu respecte cette liberté. Ce qui signifie que Dieu est cause de toute chose. Il est le premier moteur, rien ne lui échappe, disons, en tant que créateur et providence. Mais pour réaliser son dessein, son objectif dans l'univers, eh bien, il utilise aussi notre coopération, et notre coopération libre. Voilà. Le fait d'être gouverné par Dieu ne détruit pas notre liberté, au contraire, elle la rend possible. Pour prendre un exemple évidemment très bancal, ce serait comme un père qui éduque son enfant. Bien sûr, il y a une étape où il faut enseigner et apprendre à l'enfant ce qui est bien et ce qui est mal. Mais les parents qui éduquent leurs enfants, ceux parmi vous qui sont parents, le savent bien, il faut que l'éducation respecte la liberté de l'enfant. Parce que faire une suite de lois, eh bien, n'est pas suffisant. Il faut que l'enfant, par lui-même, dans sa liberté, eh bien, parvienne à réaliser le bien que ses parents veulent pour lui. Évidemment, c'est une comparaison très, très bancale, parce que la liberté de l'enfant échappe aux parents, alors que notre propre liberté n'échappe pas à Dieu. Mais je pense que c'est assez éclairant pour comprendre que vouloir le bien de quelqu'un et vouloir sa réalisation, vouloir qu'il réalise le projet que l'on a pour lui, peut inclure sa propre liberté. Alors, donc, Dieu nous donne la dignité d'agir par nous-mêmes, et d'être même cause les unes des autres. Ça, c'est l'un des mystères de la providence divine. C'est comment le bon Dieu utilise la liberté des uns et des autres pour réaliser ses objectifs. Je vous prends un exemple tout bête qu'un confrère m'a raconté il y a quelques jours. Il était en voiture, et puis il voit sur le bord de la route deux jeunes de 16-17 ans qui faisaient du stop. Alors ils s'arrêtent pour les prendre, et les deux jeunes leur disent « Ah mais vous êtes prêtre, c'est incroyable, parce que figurez-vous qu'on était en train de parler de Dieu, et que comme il y a un des deux qui disait « Oui, moi je crois en Dieu », l'autre disait « Moi je crois pas en Dieu, il n'existe pas », et comme on savait pas s'il existait vraiment, on s'est dit « Si la prochaine voiture s'arrête, ça veut dire que Dieu existe ». Et donc là, le prêtre, c'est lui, donc le prêtre leur dit bah, « Non seulement Dieu existe, mais en plus il vous envoie un prêtre, donc là il faut voir un signe de la providence ». Et tant qu'on est dans les histoires, ça m'est arrivé moi aussi une fois, je faisais moi-même du stop en vacances à une époque où ça m'amusait. Et justement pour faire des rencontres providentielles, inopinées. Et je descends de la voiture de quelqu'un qui m'avait déposé quelque part. Et je tends le pouce et la première voiture s'arrête. Et le conducteur s'arrête, il me regarde, il me dit « c'est un miracle ». Alors je lui dis « non ». Il me dit « c'est un miracle, j'étais en train de prier ». En demandant à Dieu de rencontrer un prêtre. Et parce qu'il était en route de retour chez lui, et il disait, mon Dieu, il faut que je rencontre absolument un prêtre, parce qu'il avait un problème très compliqué de famille, il avait besoin d'un conseil chrétien avant de rentrer chez lui. Et il dit, c'est incroyable, j'étais en train de faire une prière en disant, mon Dieu, débrouillez-vous pour que je puisse rencontrer un prêtre, et là, paf, vous êtes sur le bord de la route. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le bon Dieu avait tout organisé à l'avance. Il a fait en sorte que je me trouve à cet endroit précis à ce moment-là. Et donc, il avait fallu organiser toutes les personnes qui m'avaient pris en stop précédemment, tout en respectant la liberté de chacun. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont des petits détails de la vie qui ont fait que j'avais pris la voiture précédente et que la personne allait à tel endroit à ce moment-là, donc m'avait déposé à tel endroit, etc. Donc c'était une chaîne très complexe d'événements qui incluait la liberté de chacun des acteurs de ce scénario incroyable, hyper complexe, qui avait pour but de faire en sorte que je sois à ce moment-là, au moment de la prière, au moment où cet homme faisait cette prière, que je me trouve à cet endroit faire du stop. Donc, et la providence divine a une puissance... qui respecte c'est la liberté de ces créatures, mais qui évidemment les fait entrer en jeu. Alors, justement, question suivante, comment l'homme collabore-t-il avec la divine providence ? Alors, encore une fois, réponse, tout en respectant sa liberté, Dieu donne à l'homme et lui demande de collaborer par ses actions, par ses prières, mais aussi par ses souffrances, en suscitant en lui le vouloir et le faire selon la bonté de son dessein. Citation de l'Épître aux Philippiens. Donc, ici le catéchisme respecte ce que nous venons de répète ce que nous venons de dire, à savoir que Dieu respecte notre liberté, mais il donne à l'homme aussi et il lui demande de collaborer par nos actions, nos prières et aussi nos souffrances à cette œuvre de la providence. J'introduis ici directement une citation que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent par ailleurs sur d'autres réseaux, etc., savent que je cite souvent cette phrase, alors qu'il n'est pas une phrase de la Sainte Écriture ni même d'un saint. C'est une phrase de l'écrivain Bernanos, Georges Bernanos, que j'aime beaucoup et que je vous recommande largement, qui dit ceci en parlant de la communion des saints. Il dit « Nous ne vivons, nous ne souffrons et nous ne mourons pas chacun pour nous, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. » Alors, voilà c'est un élément très complexe, évidemment, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est ce qu'on appelle la communion des saints, à savoir que le bon Dieu sait utiliser les difficultés, les souffrances des uns et des autres pour le bien, soit pour leur bien propre, soit pour le bien de l'univers. Et ça, si vous voulez, il me semble que c'est une notion à laquelle on pense assez rarement, la communion des saints. Pourtant, c'est l'un des articles du credo. On y reviendra d'ailleurs dans les derniers articles. Mais je crois à la communion des saints. Et l'exemple que prend Bernanos, si je me souviens bien, c'est de dire, c'est peut-être une petite fille au Moyen-Âge qui est sortie sous la neige chercher de l'eau au puits en faisant un acte de charité, en disant « je vais aider mes vieux parents ». Et peut-être que cet acte que seul Dieu a vu, eh bien, c'est exactement cela qui a fait que le monsieur qui voulait parler à un prêtre a rencontré un prêtre autostoppeur, comme dans l'exemple que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, en fait, toutes nos bonnes actions, toutes nos prières sont toujours rentables et rentabilisées par Dieu. Évidemment, sans doute pas toujours comme nous le souhaiterions. Chacun d'entre nous avons tous fait l'expérience d'avoir demandé à Dieu, quand on était petit, quand on était jeune, de réussir tel ou tel examen ou de faire ceci ou cela. Eh bien, parfois, on n'est pas exaucé. Mais la communion des saints, le dogme de la communion des saints et cette providence toute puissante de Dieu nous enseigne que aucune prière n'a été perdue et aucune grâce n'est vaine. Et c'est comme ça... l'un des aspects, en tout cas, de notre compréhension du mal dans le monde. Nos souffrances, toute souffrance, eh bien, peut servir pour quelque chose. Il nous restera à justifier pourquoi le mal existe, mais déjà, comme chrétiens, nous savons que toute épreuve, toute difficulté, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit de l'ordre de la tentation, du désespoir, du doute, de la tristesse, de l'injustice, évidemment les épreuves physiques, la maladie, la souffrance, les accidents, la mort de proches, etc. Rien n'est vain. Et ça, c'est d'une consolation, c'est une consolation incroyable. Souvent, j'ai eu des discussions sur les réseaux sociaux, j'ai parlé un peu de cette question, pourquoi est-ce que ma grand-mère meurt du cancer, etc. Et donc, je disais ça, Dieu voit toutes les souffrances, il fait tourner toujours le moindre mal, si Dieu le permet, c'est pour un plus grand bien. Et donc, il y a beaucoup de réponses de gens qui disent « oui, mais alors pourquoi les enfants souffrent ?» Je vais dire ça à ma femme ou à ma tante qui est à l'hôpital en train de mourir, en train de souffrir. Mais moi, ce que j'ai essayé de leur répondre, c'est de dire, mais si la souffrance n'a aucun sens, si la mort n'a aucun sens, eh bien c'est encore pire, C'est-à-dire que, au moins, si Dieu voit mes souffrances et qu'il en fait quelque chose, eh bien, je me dis, elles ont un sens et elles peuvent prendre une valeur. J'insiste sur ce point parce que, évidemment, on est là au cœur du christianisme, puisque d'où vient la communion des saints dont je viens de parler ? Eh bien, elle vient évidemment de notre union au Christ. Elle vient du fait que le Christ a pris sur lui notre souffrance, nos souffrances, notre mort. Il les a pris sur lui et il les a valorisées. Il les a, par sa résurrection, il leur a donné tout un sens théologique, puisque ça vient de Dieu, selon une logique divine. Il a fait tourner le mal en un bien. Le cœur du christianisme, finalement, c'est ça. Par sa mort, le Christ nous enseigne que le mal et la mort ne sont plus inutiles. Et donc, celui qui est dans son lit d'hôpital, celui qui souffre, eh bien, parce qu'il peut être uni à Dieu, ou parce que d'autres, par leur prière, unissent ses souffrances à Dieu, eh bien, désormais, ses souffrances ne sont plus vaines, elles sont plus inutiles. Donc, on est là quand même au cœur du mystère du mal, de la souffrance et de l'œuvre du Christ dans le monde. Alors, je continue pour avancer justement dans cette question de l'existence du mal. On rentre exactement dans le problème. Question 57. Si Dieu est tout-puissant et providence, pourquoi alors le mal existe-t-il ? La réponse ici est, comme vous l'imaginez, assez complexe et fait cette première affirmation tout à fait importante. Seul l'ensemble de la foi chrétienne peut donner réponse à cette question à la fois douloureuse et mystérieuse. Alors ça, c'est pour dire tout simplement que parfois, le mal n'a aucune cause, et en tout cas, elle nous échappe. Je disais tout à l'heure qu'en vertu de la communion des saints, toute souffrance, tout malheur peut être valorisé, peut avoir un sens, et être tourné en un bien par Dieu, mais dans la plupart des cas, on ne voit pas le bien qui s'en sort. On ne voit pas le bien qui sort du mal que nous constatons. Donc c'est ça, l'épreuve de l'homme, et qui nécessite du coup la foi et la confiance en Dieu. Mais on ne voit pas, en général, en règle générale, on ne voit pas le bien qui s'ensuit. Alors évidemment, il y a certains cas, sans doute ça vous est arrivé comme à moi, je parlais tout à l'heure des prières qu'on a pu faire pour réussir un examen, etc. Parfois, après quelques années, on se rend compte qu'en fait, tout était entre les mains de Dieu et que ce qui me semblait quelque chose d'absolument indispensable pour moi-même, pour ma vie, pour mon épanouissement, finalement, heureusement que Dieu ne l'a pas permis. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai raté un certain nombre de concours sur la dernière marche de choses que je voulais faire. Et finalement, quand je regarde en arrière, je me dis, tout était prévu par Dieu parce que j'étais appelé à devenir prêtre, à rentrer au séminaire. Et si j'avais réussi telle ou telle étape qui me semblait absolument, pour laquelle j'avais beaucoup prié, eh bien, je ne serais pas arrivé là où Dieu voulait me mener, là où j'en suis aujourd'hui. Donc, vous avez tous, j'en suis sûr, fait ces expériences. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de cas où, avec du recul, on peut se dire, bah bien sûr, en fait, c'est le bon Dieu savait, en permettant cela qui me semblait être un mal, ou qui objectivement ratait un concours, effectivement, ou un examen, objectivement, c'est un mal, mais finalement, le bon Dieu l'a permis pour un plus grand bien. Alors, mais néanmoins, dans la plupart des cas, quand on est face à la mort, face à la souffrance, à la mort brutale d'un enfant, on peut imaginer tous les scénarios les plus dramatiques. Et bien, évidemment, dans ce cas-là, vous savez, souvent, il n'y a absolument rien à dire. Moi, j'ai appris dans ma vie de prêtre qu'il y a un certain nombre de cas où, vous savez, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Quand vous êtes à côté d'une femme qui vient de perdre son enfant, vous savez, vous n'avez pas commencé à justifier, à expliquer le catéchisme, pourquoi le mal existe, etc. Et puis, il faut mieux se taire et regarder le crucifix. J'ai eu quelques expériences comme ça, effectivement, assez impressionnantes, touchantes, de personnes, vous voyez, qui sont dans la souffrance et qui vous posent cette question, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je me souviens d'un jeune qui était tenté, j'allais dire, par l'homosexualité. C'est un jeune très, très, très catholique, etc., qui voyait bien que ça n'était pas conforme au plan de Dieu, et qui était parti de chez ses parents un matin à 16 ans en disant « Je quitte la maison, je suis homosexuel, vous ne pourrez jamais me comprendre, donc il faut mieux qu'on se quitte définitivement ». En plus, soutenu par dans son lycée, il y avait je sais pas qui, un prof qui lui avait dit je vais t'accueillir, on va trouver un foyer pour t'accueillir, je sais pas quoi. Bon, heureusement, les parents qui étaient tout à fait tolérants, ouverts et qui ont tout à fait soutenu leur fils dans cette épreuve sont allés le chercher. Ils nous disent tu rentres à la maison. Et après, ils m'ont appelé en me disant est-ce que vous pouvez venir me parler avec notre fils. Alors, bon, c'était pas très très évident comme situation. J'ai essayé de parler, ça a duré longtemps, etc. Parce que bon, je voulais pas aborder non plus ces questions très personnelles. Voilà, mais comme c'est pas. Enfin, voilà, il avait fait un acte, disons, public par rapport à ses parents. Et il s'était mis à pleurer. Et on avait une très bonne discussion, très, très, très sincère, très honnête. Et je me souviens qu'à un moment, il m'avait dit mais pourquoi moi? J'ai rien demandé. Je préférerais, évidemment, que ne pas être concerné par ça. Et pour vous dire, c'est un garçon que, bon, que j'ai pas revu ensuite, mais je sais par ses parents qu'il vit très chrétiennement, qu'il est très heureux, qu'il a une vie tout à fait épanouie et qu'il ne revendique absolument pas son homosexualité comme ou ses tentations homosexuelles comme certains le font, et que je pense qu'il lutte contre ça de façon très très vaillante et tout à son honneur. Et il cherche la vertu comme tout homme est appelé à la vertu, évidemment. Alors, mais dans ce cas-là, vous voyez, comme des cas comme ça, pourquoi moi? Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse. Évidemment, il n'y a pas de réponse. La seule réponse, c'est de regarder le crucifix en disant pourquoi lui? Oui. Alors, la réponse est la suivante, ici dans le catéchisme. En aucune manière, Dieu n'est la cause du mal, ni directement, ni indirectement. Voilà. En aucune manière, Dieu n'est la cause du mal, ni directement, ni indirectement. Dieu ne peut pas faire le mal. C'est-à-dire que c'est impossible. Parce qu'il est tout puissant, justement, il n'a pas la puissance de faire le mal. La toute puissance de Dieu implique de ne pas pouvoir faire des choses absurdes ou contradictoires ou mauvaises. Parce que tout ce que fait Dieu est bon. Alors, vous me direz, ben alors d'où vient le mal si c'est pas Dieu qui l'a créé? Eh bien, la réponse, c'est que le mal n'est pas une nature. Le mal n'est pas quelque chose de créé par Dieu. Le mal, c'est l'absence de bien. Et donc, le mal, c'est un défaut par rapport au bien que Dieu a créé dans le monde. Comme le silence est une absence de bruit, ou comme l'obscurité est une absence de lumière. On pourrait dire d'un certain côté que Dieu n'a pas créé l'obscurité. Dieu a créé la lumière. Mais en créant la lumière, eh bien, ce qui s'oppose à la lumière est appelé obscurité. Ou ce qui s'oppose lorsqu'il n'y a pas de bruit, de son, eh bien, c'est ce qu'on appelle le silence. Donc, de la même façon, on peut dire, c'est une comparaison évidemment, que Dieu a créé le bien que des choses bonnes, et ce qui s'oppose au bien de la création divine est appelé le mal. Et donc, parce que Dieu crée des choses bonnes, il s'ensuit du mal. C'est-à-dire que il s'ensuit du mal relativement aux choses créées. Mais dans le plan divin, ce n'est pas du mal. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Dieu crée les animaux, alors il y a eu toute une question, est-ce qu'il y avait des animaux qui se mangeaient les uns les autres, ou est-ce qu'ils étaient tous végétariens? Mais même si les animaux étaient végétariens, le fait qu'un lion mange des feuilles de l'arbre, eh bien c'est un mal pour l'arbre de perdre ses feuilles. Donc, or c'est un bien pour l'ensemble de la création, parce qu'il faut bien que le lion se nourrisse. Si on part du principe que les êtres vivants ne se mangeaient pas, comme certains le conçoivent. Avant le péché, évidemment. Et puis ensuite, le péché étant entré dans le monde, alors c'est là où le mal se répand et envahit notre existence quotidienne. Et que la souffrance et la mort entrent dans le monde. Alors, justement, en aucune manière, Dieu n'est cause du mal, ni directement ni indirectement. Il éclaire le mystère du mal par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour vaincre le grand mal moral qu'est le péché des hommes, racine des autres maux. Voilà, finalement, la réponse, comme je vous le disais tout à l'heure, la réponse c'est le Christ. Le Christ Jésus-Christ mort et ressuscité. Il a vaincu le mal. C'est ça le cœur de la foi chrétienne. Dieu s'est fait homme pour connaître le mal, pour que jamais personne ne puisse lui dire « Mon Dieu, vous ne connaissez pas ma souffrance. Vous ne connaissez pas le mal que je vis. Vous ne connaissez pas mes tentations, vous ne connaissez pas l'injustice, vous ne connaissez pas mes doutes, etc. » Eh bien si, le Christ peut nous dire « Oui, je suis venu parmi vous pour connaître tout ça, et pour racheter tout ça, pour le sauver, pour vous sauver du mal, et remplacer le mal qui existe dans le monde par le bien que je vous propose, à savoir le bien de la vie éternelle. Alors, dernière question de cette partie, encore une fois, on pourra en parler très longtemps, mais pourquoi Dieu permet-il le mal ? Parce que c'est ce qu'on appelle, vous savez, le dilemme d'Épicure. Si Dieu est tout-puissant, eh bien, il n'a qu'à empêcher le mal. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il est méchant, qu'il fait le mal. Bon. Eh bien, la réponse, c'est que c'est plus complexe que ça. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal lui-même. Cela, Dieu l'a déjà merveilleusement accompli dans la mort et la résurrection du Christ. En effet, du mal moral le plus grand, la mort de son Fils, il a tiré les plus grands biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Donc voilà le mystère du mal dans la perspective chrétienne, comme dit la liturgie de la nuit de Pâques, heureuse faute, bienheureuse faute d'Adam et Ève, bienheureux péché, qui nous a valu un tel rédempteur. Finalement, le péché qui a permis que le mal rentre dans le monde, c'était une catastrophe et c'était le début du désordre dans l'univers et des souffrances, etc., comme je viens de le dire. Mais c'est ce péché, finalement, qui a permis que Dieu lui-même se fasse homme, qui a permis l'incarnation et le salut et la rédemption, le rachat que le Christ, donc que Dieu lui-même, apporte dans le monde. Alors, comme toujours, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.